les points 26 et 27, je prends ensemble. Fuite et sortie des Juifs hors de l'Irak. Il faut que j'explique que les Juifs au 6e siècle avant Jésus-Christ, plus exactement depuis 606 avant Jésus-Christ, étaient amenés en captivité à Babylone, sud de l'Irak actuel. Après quelques décennies, environ, si on compte les femmes et les enfants avec, 200 000 sont retournés au pays des ancêtres. Mais il y avait donc une communauté juive qui restait à Babylone, et cela aussi pour les centaines d'années qui suivaient, et cela jusqu'au XXe siècle. Encore au XXe siècle, on avait une communauté juive en Irak actuel d'environ 150 000 juifs. Mais l'an 1941 marque cette terrible alliance de l'Irak avec les nazis. Et à cause de cette alliance, les Irakiens ont fait un massacre parmi les Juifs à Bagdad. Ce qui a eu comme conséquence la fondation d'une organisation clandestine pour aider aux Juifs de franchir les frontières de l'Irak. Dans la suite, des milliers sont clandestinement sortis de l'Irak par des fuites énormes. Et finalement, vers 1950, le président de l'Irak s'est dit « Mais il faut finir ce problème de la fuite juive. Je donne la permission aux Juifs de partir. Et bien sûr, ils doivent renoncer à la citoyenneté irakienne. Ils ne peuvent vendre leur maison et leurs biens que pour 10% de la valeur. » Et ensuite, ils peuvent partir et quand c'est permis, ils pensaient 6 à 10 000 Juifs vont sortir et après on aura la paix. Eh bien, 104 000 se sont annoncés. Mais il avait mis un délai jusqu'à 1952, ils doivent être sortis. Et Israël, à l'époque, n'avait presque pas d'avion. Mais finalement, tout le monde a pu sortir. Ensuite, il y avait de nouveau des persécutions juives en Irak. Et finalement, à la veille de la guerre du Golfe en 1991, il y avait environ plus de 100 juifs encore en Irak. Actuellement, on pense environ une trentaine de juifs. Mais adultes, vieux, vieillards se trouvent encore en Irak. Donc, toute la communauté est sortie après 2600 ans. Nous sommes aujourd'hui à la fin de la captivité babylonienne. Eh bien, dans les chapitres 50 et 51 de Jérémie, nous avons une prophétie touchant la Babylonie dans les derniers jours. Et là, en Jérémie 50, verset 8, nous lisons « Fuyez du milieu de Babylone et sortez du pays des Chaldéens. » C'est un texte poétique, donc écrit en vers. La première ligne de vers dit fuyez du milieu de Babylone. La deuxième ligne, sortez du pays des Chaldéens. Donc il y a les deux choses, sortie et fuite. Et nous avons vu, il y avait des périodes de fuite et périodes de sortie après période de fuite. Ça s'est réalisé ainsi. Lorsqu'on veut appliquer, par exemple, ce texte au retour des Juifs à l'époque d'Esdras et de Néhémie, c'est impossible parce qu'ils n'ont pas pris la fuite. Ils ont fait la sortie officielle de la Babylonie. Jérémie 51, verset 6, « Fuyez du milieu de Babylone. » D'ailleurs, le terme en hébreu pour Babylone, c'est toujours Babel, Babel. Ça peut désigner la ville ou le territoire. On doit donc toujours, en lisant le texte, on doit clarifier est-ce qu'il s'agit du pays ou il s'agit de la ville. Alors ici, c'est correctement le pays. Fuyez du milieu de Babylone, ou Babylonie, de la Babylonie, on pourrait dire, et sauvez chacun sa vie. Ne soyez point détruits dans son iniquité, car c'est le temps de la vengeance de l'Éternel. Il lui rend sa récompense. 28. Fuite et exode avant la catastrophe en Irak. Comme nous venons de lire, ils doivent prendre la fuite pour être épargnés du jugement qui va tomber sur la Babylonie. Ne soyez point détruits dans son iniquité, car c'est le temps de la vengeance de l'Éternel. Et effectivement, les Juifs sont sortis avant la terrible guerre du Golfe de l'ONU contre l'Irak, 1991. N'est-ce pas? Bien sûr, c'était l'Amérique qui était à la tête des nations de tous les de toutes les cinq continents du monde qui sont allés contre la Babylonie, mais c'était sous c'était sous l'autorité de l'ONU. Une guerre terrible avec un nombre innombrable de morts, avec 100 000 attaques aériennes. On ne s'imagine pas ce que c'était cette guerre terrible. 29. Une armée du bout de la terre contre l'Irak. En Ésaïe 13 et 14, nous avons également une prophétie touchant la Babylonie dans les derniers jours. Et là, au verset 4, à la fin, nous lisons: L'Éternel des armées fait la revue de la milice de guerre. Ils viennent d'un pays lointain, du bout des cieux. L'Éternel est les instruments de son indignation pour détruire tout le pays. Et lorsqu'on voit donc une carte mondiale, on voit ce que c'est le bout des cieux, ou dans d'autres textes, la fin, les fins de la terre, les extrémités de la terre. Eh bien, la masse venait des États-Unis, vraiment le pays le plus éloigné. Ou de l'Australie, il venait aussi, ou de l'Amérique du Sud. Il venait vraiment du bout des cieux pour détruire tout le pays par 100 000 attaques aériennes. C'est là, c'est notre point 30, destruction de l'Irak pour détruire tout le pays. 31, le bruit de guerre sur les collines. Je lis encore en Ésaïe 13, mais au début du verset 4. Le bruit d'une multitude sur les collines, semblable à un grand peuple, la voix d'un tumulte des royaumes, des nations rassemblées. Vous souvenez que toutes ces nations des cinq continents du monde se sont rassemblées d'abord contre l'Irak sur le territoire de l'Arabie saoudite. Et ensuite, Saddam Hussein, il a cru qu'ils vont faire une attaque contre lui, contre ses soldats au Koweït, depuis la mer, depuis le sud. Mais ils ont décidé de seulement faire semblant d'une telle attaque. Mais la grande masse des alliés sont entrés d'abord sur le territoire de l'Irak, sur les collines, sont allés avec tous leurs chars et leurs voitures. Et ensuite, ils ont tourné vers le sud pour aller dans le dos des soldats de l'Irak qui se trouvaient donc au Koweït. Eh bien, voyez donc tous ces alliés qui vont sur les collines de l'Irak du Sud. Le bruit d'une multitude sur les collines. Donc en tout, c'était plus d'un demi-million de soldats, cette armée. Semblable à un grand peuple, la voix d'un tumulte et royaume des nations rassemblées. 32, rassemblement de beaucoup de nations, dit ce texte. Eh bien, en tout, 600 000 soldats de 34 nations différentes des 5 continents du monde qui allaient contre la Babylonie, qui était donc, on peut dire, le lieu d'origine de toutes les nations. Genèse 11, n'est-ce pas? Il y a tout un sens symbolique là-derrière. 33. Conquête de Babylone, un choc pour le monde. 2003. Eh bien, lors de, cette première guerre du Golfe, 1991, l'ONU ne voulait pas la conquête de l'Irak, seulement la délivrance du Koweït. Alors la guerre était finie. Et lorsque j'ai étudié, je me rappelle encore, j'ai vu, mais c'est pas fini. Mais le monde disait, mais non, la guerre est finie. Ah non, c'est pas fini, le texte continue. Et voilà, il fallait 12 ans. D'ailleurs, selon le calendrier juif, c'était sur le jour même, 12 ans. Et voilà la deuxième phase, 2003. Et dans cette phase, l'Irak a été conquis, ce qui était un choc pour le monde. Et là, pour la deuxième fois seulement, des millions de gens sont allés dans les rues pour protester contre l'Amérique. Eh bien, Jérémie 50, 22, fracas de bataille dans le pays, désastre immense. Verset 23, comment est-elle devenue un objet d'épouvante parmi les nations? Ainsi selon le texte de la Bible de Jérusalem. C'était un objet d'épouvante parmi les nations. Donc, sans entrer dans la politique, je veux simplement dire que ça a été annoncé. Ça devait être un choc pour le monde entier. 34. La prise de Bagdad. Jérémie 51, 31. Mais avant de lire, il faut que j'explique que Saddam Hussein s'est considéré comme le deuxième roi Nebuchadnezzar de Babylone. C'est pour ça qu'il a commencé à reconstruire l'ancienne ville de Babylone et les murs de la ville, le palais sud de Nebuchadnezzar et des temples païens de l'époque. Et dans le pays dispersé, on pouvait voir des affiches immenses. On le voyait, Saddam Hussein, avec Nebuchadnezzar et derrière lui, derrière ces deux personnages, la Babylonie, la ville de Babylone. Eh bien, Jérémie 51, 31. Le coureur court à la rencontre du coureur et le messager à la rencontre du messager pour annoncer au roi de Babylone que sa ville est prise de bout en bout et que les passages sont saisis et que les palais sont brûlés par le feu et que les hommes de guerre sont épouvantés. D'abord, le monde se dit, mais comment les alliés d'Amérique, ils vont entrer à Bagdad qui avait donc une ceinture de sécurité des soldats de Saddam Hussein motivés pour la guerre. Eh bien, après très peu de temps, on a entendu. Ils ont fait la prise de toute la ville de Bagdad, que sa ville est prise de bout en bout. 35. Les passages sont saisis, le texte le dit, que sa ville est prise de bout en bout, et que les passages sont saisis, les passages du Tigre à Bagdad. Les alliés ont saisi. 36. Les palais sont brûlés, le texte le dit, et que les palais sont brûlés par le feu. Et qui ne se rappelle pas de ces images des palais brûlés de Saddam Hussein, qui ont fait le tour du monde? Et bien sûr, si dans votre Bible, il est écrit là, au lieu de palais, les étangs sont brûlés par le feu, il est utile de savoir que le terme hébreu « agamim » peut dire « palais, forteresse ou étang ». Mais ce n'était pas les étangs qui ont brûlé, mais les palais. 37. Fin subite de la guerre. Eh bien, on s'est dit, mais cette guerre, elle va durer. Il y avait une fin subite de la première phase, déjà après 25 jours. Et je me rappelle d'un article du Spiegel en Allemagne, décembre 2003, où un haut officier de l'Irak a été interviewé. Il a raconté comme il était en guerre avec ses soldats. Et un jour, une partie des soldats n'est plus arrivée. Le lendemain, encore moins. Et ça a continué ainsi. À la fin, il était toute seule ou presque toute seule. Ils ont pris la fuite. Jérémie 51, 30. Les hommes forts de Babylone ont cessé de combattre. Ils sont assis dans les palaces, dans les places fortes. Leur force est épuisée. Ils sont comme des femmes. On a mis le feu à leur demeure. Leurs barres sont brisées. 38. Bombardement des abris. On a mis le feu à leur demeure. Les demeures des hommes forts, n'est-ce pas? Ce sont les abris des soldats. Et leurs barres sont brisées. 39. Les richesses de Babylone dans les mains des ennemis. Eh bien là, quelqu'un pourrait dire, oui, mais on savait toujours, les Américains veulent le pétrole. Qui dit depuis toujours? Dans la Bible, on le sait depuis 2600 ans. Jérémie 50, verset 10. Et la Chaldée, un autre nom pour la Babylonie, sera un butin. Tous ceux qui la pilleront seront rassasiés, dit l'Éternel. Et depuis 2003, les entreprises ont pu faire leur argent. Ce n'est pas l'État américain qui reçoit l'argent, mais les industries, les entreprises privées. Car l'Irak, c'est quand même le pays sur le deuxième rang en richesse de pétrole à l'échelle mondiale. Jérémie 51, 13, toi qui habites sur beaucoup d'eau, Dieu parle à la Babylonie qui se trouve entre l'Euphrate et le Tigre, abondons ton trésor. Ta fin est venue, la mesure de tes rapines. Mais avec la guerre de 2003, la prophétie n'est toujours pas accomplie. Ça continue. Et nous considérons en fait les prophéties accomplies, mais ici juste une indication. Les textes d'Ésaïe 13 et 14, Jérémie 50 à 51, parlent encore d'une phase finale à venir avec une destruction totale de l'Irak du Sud, donc de la Babylonie, pas d'Assur. Assur restera encore jusqu'à la venue du Seigneur. Mais la Babylonie sera complètement détruite, de sorte que la région ne soit plus jamais habitée. Ça, on peut lire pour soi-même. Et pour finir, quatrième point, l'Empire romain revient. Nous connaissons la prophétie, j'espère au moins, des quatre empires de Daniel 7. Dans un rêve, le prophète voit quatre animaux terribles qui sortent de la mer des nations. D'abord un lion majestueux qui représente l'empire glorieux à l'époque de Daniel, la Babylonie. Le texte lui-même explique que ces animaux désignent des empires. Ensuite, il voit un ours, qui n'est pas très majestueux, mais le texte le dit, un ours qui mange, qui dévore. Et cela désigne l'empire des Perses et des Mèdes, qui ont dévoré, après quelques décennies, l'empire de la Babylonie. Et ils avaient vraiment faim, ils sont allés jusqu'en Inde. Donc leur empire était finalement beaucoup plus grand que l'empire babylonien. Mais après cette période de l'empire mondial des Perses et des Mèdes, voilà un troisième. Daniel voit un léopard, donc l'animal le plus vite dans cette vision, qui désigne la Grèce. Et voilà Alex. On a appris à l'école Alexandre le Grand, avec 10 000 soldats dans une période de 13 ans seulement, depuis l'Europe conquit tout l'empire des Perses qui était partiellement en Afrique et, comme j'ai dit, qui allait jusqu'en Inde, à l'autre côté du fleuve, de l'Indus. Voilà. Ensuite, un quatrième animal, une bête terrible et forte, avec 10 cornes, ce qui désigne le prochain empire dans l'histoire, Rome. N'est-ce pas? Ainsi, on l'a appris à l'école, j'espère au moins, les 4 grands empires, Babylonie, Médo-Perse, Grèce, Rome. Mais maintenant, nous faisons une connexion avec le Nouveau Testament. En Apocalypse 13 et 17, écrit vers 95 après Jésus-Christ par Jean sur l'île de Patmos, là, le prophète voit encore une fois cette quatrième bête de Daniel, cette bête terrible qui désigne l'Empire romain. Et voilà, il reçoit l'explication en Apocalypse 17, verset 8. La bête que tu as vue était et n'est pas et va monter de l'abîme et aller à la perdition. Donc, ici, nous apprenons 3 phases de cette bête romaine. Selon les temps absolus de la grammaire, passé, présent, futur. Il y a encore une raison plus profonde pour ce langage, car Dieu est appelé dans l'Apocalypse celui qui est, celui qui était et celui qui viendra, qui vient. N'est-ce pas? Dans l'Apocalypse, on voit que cet empire des Romains se prend comme une déité. Alors, c'est ironique quand le texte dit « La bête que tu as vue était et n'est pas. » Qu'est-ce que c'est comme Dieu qui n'est pas, qui arrête d'exister? Mais après, « Et va monter » pour continuer et aller à la perdition. Donc, c'est absolument ironique. Eh bien, nous avons appris à l'école, il était une fois un empire romain. Ce n'était pas un conte de fées, c'était historique et à l'époque, Jésus-Christ, le Messie, était né à Bethléem sous le règne de l'empereur Auguste. Mais nous avons appris à l'école en 476 après Jésus-Christ, les barbares de l'Allemagne et de l'Europe de l'Est sont venus, se sont introduits dans l'Empire ouest de Rome et l'ont détruit finalement. Mais il y avait toujours l'Empire à l'Est, l'Empire byzantin, c'était toujours l'Empire romain, et cela jusqu'à 1453, lorsque les Turcs, les musulmans, ont finalement pu détruire complètement cet empire. D'ailleurs, un jour où j'étais sur un voyage pour aller en Asie centrale, je me suis arrêté un après-midi à Istanbul et dans le marché, j'ai vu quelqu'un avec un t-shirt, ce qui est assez normal, n'est-ce pas? Mais derrière, il y avait 4 chiffres. 1, 4, 5, 3. Ah, j'ai compris. Oui, mais longtemps avant, vers 800, Charlemagne a rétabli l'Empire romain à l'ouest. On parlait de l'Empire Saint de Rome, l'Empire romain Saint. Et plus tard, on l'a aussi appelé l'Empire romain de nation germanique, n'est-ce pas? Pour la première fois, on a un texte qui en parle seulement du XVIe siècle. Oui, et cet empire a tenu ensemble des grandes parties de l'Europe, a uni ensemble des grandes parties jusqu'à 1806. L'empereur Franz, n'est-ce pas? Vous dites François. Il a mis de côté sa couronne. Voilà la fin de l'empire saint des nations germaniques. Mais 2 ans avant, Napoléon, il a arraché la couronne au pape pour ne pas être soumis à la religion. Il a mis sa couronne et a fait la guerre jusqu'en Russie. C'était pour tenir ensemble dans un royaume romain, l'Europe. Mais 1813, dans la bataille des nations à Leipzig, son sort était définitif. Et l'année d'après, le Parlement français a mis de côté Napoléon. On n'avait plus d'empire romain en Europe. Voilà, 19e siècle. Siècle du nationalisme, où on était fier d'être français, pas européen ou romain, français ou suisse ou allemand, etc. Et voilà un déchirement intérieur du continent qui a atteint un point culminant dans les années 1914 à 18, dans la Première Guerre mondiale, avec plus de 20 millions de morts. C'était la première fois ce phénomène de guerre mondiale, sur une guerre qui a touché tous les 5 continents du monde. Et voilà, l'Europe était détruite. Mais ce n'était pas fini. Cette guerre a recommencé, on peut dire, car la Deuxième Guerre mondiale était simplement la deuxième phase de cette Première Guerre mondiale. Et voilà, à la fin 1945, plus de 70 millions de morts en Europe. L'Europe était brisée par terre. Et voilà, l'année d'après, Winston Churchill est venu à Zurich pour tenir un discours à l'université. Il a dit: Let Europe rise! Laissez se mettre debout l'Europe. Il a expliqué: il faut créer une sorte d'États-Unis européennes. Il ne faut pas beaucoup, il a dit. Il faut simplement que 300 millions d'hommes et femmes méritent la bénédiction et évitent la malédiction, etc. Il a expliqué. Et on a compris, dans les années 50, les contrats de Rome, plusieurs nations se sont approchées et ce processus a continué. Voilà, une communauté européenne s'est créée et c'est allé plus loin, une union européenne, donc aussi une union politique, pas seulement sur d'autres domaines comme l'économie. Et aujourd'hui, donc une unité de déjà 27 nations, mais on veut continuer. Alors on peut se demander, mais qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, cette question a été déjà longtemps répondue, car les visionnaires de l'Europe, de la nouvelle Europe, comme Émile Louss dans les années 50, il a dit: l'Europe, l'Union européenne, il ne faut pas créer, mais restituer. Et un des secrétaires d'État des dernières années en Suisse, donc le docteur Franz Blancard, un philosophe en fait, il a expliqué comme quelqu'un qui est pour la nouvelle Europe, n'est-ce pas, ça existe aussi en France, en Suisse, en France peut-être aussi, mais il a dit: en vue de la nouvelle Europe, on est en train de créer un empire romain des nations européennes. Donc, il voit clairement ce que ça veut dire. C'est la troisième phase. La bête était, n'est pas et va monter. Mais ce qui est en fait une découverte terrible, c'est va monter de l'abîme, de l'abysse, abyssos en grec, Le terme est utilisé pour le Hadès, l'empire, le séjour des morts, en Romains 10. Et effectivement, la Nouvelle Europe a commencé à se former sur les cendres de la Deuxième Guerre mondiale, la pire de l'humanité, avec environ 70 millions de morts. C'est quand même remarquable de voir ça. Et l'Apocalypse nous dit, dans l'époque de cette dernière phase de l'Empire romain, le Seigneur Jésus va revenir comme le juge du monde pour établir le règne de 1000 ans. Eh bien, nous avons posé la question au début, sommes-nous vraiment au temps de la fin? Nous sommes seulement arrivés jusqu'au point 40, mais vous pouvez recevoir donc cette présentation PowerPoint. Toutes les images sont licenciées, vous pouvez même utiliser ça librement, publiquement, sans payer. Alors, nous avons posé la question, sommes-nous vraiment au temps de la fin? Et on peut dire, nous sommes vraiment au temps de la fin. Nous avons vu 40 preuves, mais on pourrait continuer jusqu'à plus de 160 preuves. Et ce qui est remarquable, si on avait seulement 2-3 points, alors on peut dire, oui, mais c'est peut-être du hasard. Mais lorsqu'on a 40 ensemble, donc il faut voir le lien des prophéties individuelles. Alors, même très facilement, par la mathématique, on peut montrer, c'est impossible, absolument impossible de voir un hasard. C'est une preuve que Dieu existe, et plus, pas simplement n'importe quel Dieu, mais le Dieu de la Bible existe. Car de telles prophéties, on ne trouve pas ni dans le Coran, ni dans les écrits des bouddhistes ou des hindouistes. On ne trouve pas dans les traditions des tribus en Afrique. Non, cette prophétie accomplie prouve que le Dieu de la Bible est le seul vrai Dieu qui est vraiment au-dessus du temps et de l'espace. C'est pour ça qu'il sait dans le détail ce qui va arriver dans l'histoire humaine. Et on peut en tirer au moins 3 conclusions. 1. Jésus-Christ revient bientôt. 2. La Bible est la parole de Dieu. Et 3. Nous devons nous tourner vers Dieu. Car nous sommes encore, mais justement, à la fin de cette période de la grâce pour les nations non-juives, où la bonne nouvelle est annoncée, la nouvelle du Messie souffrant, qui est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Et si nous confessons nos péchés dans la prière personnelle à Dieu, Dieu nous pardonne, nous donne la vie éternelle, et nous pouvons un jour rencontrer le juge du monde sans avoir peur du juge du monde, car le juge du monde qui va venir un jour, c'est mon sauveur personnel.